c'est-à-dire qui ne travaille plus, mais qui est trésorier d'un club de foot, qui fait partie du conseil municipal, qui cultive ses tomates ou qui prépare les vacances des enfants, eh ben, c'est quelqu'un qui, bel et bien, travaille, qui produit de la valeur, qui produit de la richesse, qui produit de la civilisation, qui produit du lien, tout ce que vous voulez, et qui est peut-être plus utile qu'un salarié qui, lui, travaille, mais qui, parfois, ne travaille que pour satisfaire des actionnaires voraces, tout en participant à éventuellement la pollution ou le désastre environnemental, par exemple, qui nous préoccupe tant. C'est ces relations et ces façons originales de rapprocher les choses qui nous intéressent dans ce que nous dit Bernard Friot, qui commence, vous l'aviez entendu, par une histoire, un historique des retraites.
Alors la retraite est née sous sa forme actuelle, je dirais que son début c'est une loi de 1853, donc ça fait plus de 150 ans, dans la fonction publique, qui dit que la retraite c'est la continuation du traitement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de cotisation dans la fonction publique d'État, qu'il n'y a pas
la
de
la retraite
caisse.
C'est la continuation du traitement.
Continuation du traitement.
Pour la fonction publique.
Pour la fonction publique. Pour les autres salariés, on n'envisage même pas qu'il puisse y avoir une retraite comme continuation du traitement. Ça ne peut être que la contrepartie d'une épargne. C'est pour ça que toutes les premières institutions mises en place sont des institutions à base d'épargne, jusqu'aux assurances sociales de 1930, qui créent une cotisation vieillesse obligatoire pour ceux dont le salaire est inférieur à un plafond d'affiliation. Et cette cotisation va à un compte épargne individuel. C'est Vichy qui, en 1941, va geler les comptes épargne et affecter la cotisation en répartition immédiatement à une allocation de vieux travailleurs salariés, la VTS.
La répartition, c'est Vichy ?
La répartition, c'est Vichy, oui, bien sûr, oui.
Et c'est ce qu'on veut sauver, aujourd'hui, la répartition ?
On veut sauver, justement...
L'idée de Vichy.
C'est une... Non, mais attendez. C'est pas parce que, initialement, l'acte est de Vichy que la chose n'a pas bougé dans son sens. Parce que ce que fait Vichy, il finance un forfait, un minimum vieillesse, pour faire face à la pauvreté de masse que génère la guerre. À la libération, le principe de la répartition est maintenu, mais pour financer précisément une continuation du salaire. Et si on prend ce qu'on appelle le taux de remplacement, c'est-à-dire le rapport entre la première pension nette et le dernier salaire net, hein, le taux de remplacement pour la dernière génération qui ait pris sa retraite avant les effets de la réforme, c'est-à-dire les salariés qui sont nés en 1930 et qui prennent leur retraite donc entre 1990, ils ont 60 ans, et 95, ils ont 65 ans. Nous avons un taux de remplacement pour une carrière complète, c'est-à-dire pour 150 trimestres validés à l'époque, de 84% en moyenne. 84%. Donc on a un taux de remplacement considérable qui va d'ailleurs progressant de 45 à ces années-là, c'est-à-dire les années 90. C'est ce mouvement-là de poursuite du salaire que la réforme tente d'interrompre.
Mais alors, si on vous écoute, il ne faut rien réformer du tout, il faut laisser les choses, tout va bien.
Faisons progresser, bien sûr qu'il faut toucher, parce que la retraite moyenne des femmes est à 1100 euros en tenant compte de la reversion, et à 1600 euros pour les hommes. Nous sommes à des niveaux de retraite qui sont tout à fait insuffisants, correspondant d'ailleurs à des niveaux de salaire tout à fait insuffisants. Il faut savoir que le salaire médian, celui qui partage en moitié, hein, les salaires du privé, il est à 1600 euros. Seulement 10% des salaires sont supérieurs à 3000 euros en France. Donc on a des salaires très bas qui se traduisent par des pensions basses. Bien sûr qu'il faut améliorer le taux de remplacement, c'est-à-dire passer à 100%. Pourquoi est-ce qu'un retraité ne percevrait pas la poursuite de son salaire ? Pourquoi s'arrêter à 84%?
Eh bien parce que Mme Parizeau nous explique, et pas seulement elle, mais ceux qui conduisent cette réforme et qui sont en train, selon Le Figaro, de l'emporter, eh bien, c'est qu'on a aujourd'hui, dans le rapport entre les actifs et les inactifs, et les retraités, on passe de 2 actifs pour 1 retraité en l'an 2000, et on va passer bientôt, c'est-à-dire en 2040, à 1 actif pour 1 retraité. Et donc, c'est impossible. Et ce que vous n'avez pas compris, cher Bernard, c'est que ça n'est pas une affaire de droite ni de gauche. J'ai l'impression que vous êtes plutôt à gauche qu'à droite. Comme ça, c'est une intuition. Mais c'est une affaire arithmétique.